Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Notre invitée est du genre énergique, sans détour, à l'écoute et réputée travailleuse. Sans aspirer à devenir une politique, elle s'est retrouvée plume de Nicolas Sarkozy avant de devenir conseillère pour le développement durable à la présidence de la République et d'être propulsée sur le dossier du Grenelle de l'environnement. Loin des courtisaneries et autres intrigues, elle a gravi les échelons, présidé l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avant de devenir secrétaire d'État à l'écologie en 2009 auprès de Jean-Louis Borloo, ministre d'État. Elle est aujourd'hui présidente de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Bonjour Chantal Joanneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La Voix est libre aujourd'hui avec vous. Et ensemble, nous allons plonger dans votre quotidien sur ce terrain de l'environnement, vos préoccupations, vos espoirs, les dossiers qui vous semblent prioritaires face à la demande croissante des citoyens. Et nous parlerons bien évidemment de la démocratie participative et du droit des individus à être informés et à prendre part à la vie publique. Le tout sans tabou, pour reprendre le titre de votre livre paru en 2011 aux éditions La Martinière. Et en seconde partie d'émission, un invité surprise nous rejoindra pour croiser le regard et la parole avec vous de Cause à effet, émission consacrée aujourd'hui à Chantal Joanneau, toujours en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, l'émission préparée avec soin par Anaï Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Arnoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Claude Nior, une équipe de choc. Bonjour à tous et bienvenue.
5 secondes. Il est 20h, en tête ce soir, c'est le Rassemblement National avec 23,2%. Les Républicains. Ensuite, Nathalie Loiseau avec La République En Marche à 21,9%. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot à 12,8%. Les Républicains, François...
La participation a déjoué une partie des estimations des sondages. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes, notamment, se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu. Et il n'est pas exclu ce soir que l'écologie soit la première force politique chez les jeunes, c'est un magnifique message d'avenir.
Et oui, les résultats des élections européennes avec une forte poussée des écologistes et la mobilisation des jeunes à travers le monde et donc aussi en France. Vous vous y attendiez, Chantal Joanneau?
C'est souvent un enseignement en fait du scrutin des européennes. C'était déjà le cas effectivement en 2009, avec un score d'ailleurs un tout petit peu plus élevé, mais qui était lié aussi à un rassemblement politique qui était assez novateur à l'époque. On peut jamais s'attendre au résultat d'une élection. Je crois que on serait bien prétentieux de dire on s'y attendait. C'est facile de le dire après coup. Mais le fait qu'il y ait une forte participation qui témoigne manifestement d'une participation des jeunes est quand même une excellente nouvelle.
Et donc une vague verte que vous appeliez de vos voeux depuis longtemps. Déjà en 2010, dans une interview donnée à Libération, vous disiez qu'il était crucial d'élargir cette vague verte, car sans cela, nous ne relèverions pas le défi d'un développement soutenable pour l'homme et pour la Terre.
Oui, et il ne faut pas que ça s'arrête aux élections européennes. Ce qui est important, même si évidemment mon but n'est pas de faire ici de la politique, ce qui est important, c'est que même au-delà des autres scrutins, ça se traduise partout. Ça se traduise dans tous les actes de la vie quotidienne, dans les décisions économiques, dans les choix réglementaires. Il est important aussi que cet engagement dépasse le seul cadre européen, parce que ça m'agace souvent d'entendre ces discours qui rejettent les responsabilités de la transition environnementale, soit sur l'Europe, soit sur les jeunes. C'est-à-dire que le travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est dire « ce sont les autres, on ne le fera que si l'Europe le fait, ou que si le monde le fait », c'est ce qu'on entend très souvent dans les discours politiques. Ça ne sert à rien d'être en avance sur les autres, parce que les autres n'avancent pas. Ou « ah bah écoutez, les jeunes, eux, ils vont trouver la solution ». Non, la responsabilité, c'est celle de notre génération, c'est celle de la génération qui est un peu plus âgée que nous. Et il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les autres.
Et oui, parce qu'avec votre parcours dans ce monde politique, je crois que vous avez un petit peu la déception de voir l'histoire de la politique de l'environnement se répéter.
C'est très agaçant. En fait, j'ai vécu dans le monde politique à peu près 15 ans. 15 ans que je ne regrette absolument pas. Mais ce qui est très agaçant, et je ne vais pas dire désespérant, parce que j'avais déjà utilisé ce terme-là quand on avait renoncé à la taxe carbone, c'est de voir l'histoire et les discours se répéter. On a eu récemment un rapport sur l'effondrement de la biodiversité. Mais mince quoi, rien de nouveau. Le rapport est plus chiffré, le rapport est plus documenté, mais la réalité, on la connaissait. Et on avait fait 2010, année de la biodiversité, on avait déjà pris des engagements sur ce sujet. Le climat, pareil. Et à chaque fois, on ressort des mesures nouvelles, on ressort des engagements nouveaux, on ressort des discours. Je suis à peu près sûre que je pourrais retrouver dans mes archives des discours écrits en 2008 ou en 2007 avec les mêmes mots.
Et la convention de Nagoya, c'est ce à quoi vous pensez pour la diversité. La biodiversité, c'était en 2010.
Oui, exactement. C'était une très belle convention. Par contre, à l'époque, c'était une belle avancée. On était quand même au lendemain de la discussion de Copenhague sur le climat, qui avait été une toute petite avancée, voire un échec. Et donc, tout le monde pensait que les Nations Unies ne feraient plus rien dans le domaine de l'environnement, qu'il n'y avait plus aucun accord possible. Et on s'est retrouvé sur un des sujets les plus difficiles. La biodiversité, c'est beaucoup plus difficile que le climat. Un des sujets les plus difficiles, c'est vraiment notre rapport à la nature et notre conception de notre positionnement, nous, vis-à-vis de la nature. Et là, on a réussi à trouver un accord avec tous les pays, à trouver un vrai engagement où on considérait que les ressources naturelles puisées dans un pays avaient une valeur et qu'il était légitime que ce pays et les peuples qui entretenaient ces ressources bénéficient d'un retour sur cette valeur. Et c'est colossal, c'est tous les produits phytopharmaceutiques, donc c'est la pharmacie, c'est la cosmétique, c'est quand même des enjeux financiers colossaux. Et c'était un grand bonheur de voir qu'on trouverait un accord sur ce sujet.
Quand on voit cette vague verte, on pense irrémédiablement à la rentrée aussi 2018, à la démission de Nicolas Hulot et puis à cet emballement, les manifestations dans les rues. Est-ce que ce phénomène, vous l'analysez aussi à travers ce prisme-là, c'est-à-dire cette prise de décision de Nicolas Hulot de claquer la porte ?
Le choix de Nicolas Hulot, qui était un choix très fort, il a été très vertueux. Il a été vertueux sans doute pour lui, parce que je pense que depuis, il s'est retrouvé mieux aligné qu'il ne l'était au sein du gouvernement. Et puis surtout, il a eu un message très fort en disant « ça n'est pas qu'un problème de décision politique, c'est un choix de société. » Et il faut que toute la société aussi prenne conscience que si vous avez un programme 100% écolo, vous n'êtes pas élu. Malgré le très bon résultat de Yannick Jadot, on n'est pas encore à 30%. Donc le choix de Nicolas a été très vertueux en ce sens. Et ensuite, ce qui s'est traduit dans les manifestations des Gilets jaunes, il ne faut pas se tromper d'analyse. Alors, je parle vraiment du mouvement tel qu'il était à son origine, puisqu'après, il a pu évoluer dans sa forme et dans ses fondements. Mais à l'origine, c'était vraiment un mouvement qui avait plusieurs messages. Il y avait un message qui n'est pas d'opposition à la transition énergétique, c'est pas ça du tout. C'est vous pouvez pas nous demander de payer beaucoup plus sans nous donner des alternatives. C'est-à-dire que la transition, elle doit être accessible à tous.
Égalitaire.
Et ce message-là, nous, on l'avait tellement bien vu quand on a organisé le débat public sur justement l'évolution énergétique et où il était ressorti extrêmement fortement. La transition énergétique était vécue comme une injustice sociale. Et ça, c'est vraiment, s'il y avait qu'un message à retenir, on ne peut pas séparer l'écologie de la justice sociale. C'est pas possible. Et le deuxième message qui a été moins entendu et qui est très intéressant, c'était en fait une inversion complète de la vision de la politique. Les personnes disaient au Premier ministre de manière très sympathique, écoutez-nous parce que nous sommes des citoyens entre guillemets ordinaires. Et ils se revendiquaient citoyens ordinaires et à ce titre, on sait mieux que vous ce qui se passe et donc on peut vous aider à trouver les bonnes solutions. Et j'ai trouvé que ce message était extraordinaire parce que, outre le fait qu'il cautionne toute la participation du public à laquelle je suis attachée, c'était une inversion de la vision de la politique. C'est pas on attend de vous des réponses, c'est on attend de vous une méthode parce que nous allons vous donner les réponses.
Alors écoutons justement ce reportage qui a été diffusé sur France 24 le 8 décembre 2018. On va entendre les gilets verts et les gilets jaunes.
C'était la question du jour. Y aurait-il une convergence des verts et des jaunes ? À Marseille, 10 000 marcheurs ont défilé pacifiquement pour le climat avec dans leur rang quelques gilets jaunes.
Il n'y aura pas de justice sociale sans justice écologique et réciproquement c'est important que tout le monde se relie.
Gros cortège à Bordeaux et quelques causes communes entre urgence climatique et urgence sociale, mais les calendriers semblent différents.
On n'est pas comme les gilets jaunes qui, eux, sont pour donner quelque chose assez rapidement. Là, pour le climat, il faut qu'on soit présent, qu'on continue à l'aide pour les mois à venir, les années à venir.
À Lyon, l'alerte jaune ne vient pas polluer le débat. Le rejet de la taxe carbone est avant tout un problème d'équité.
C'est les gens, ils sont pas descendus à cause de cette taxe, ils sont descendus à cause de l'injustice de la répartition de la taxe.
Gilets jaunes, gilets verts, on exprime les mêmes colères.
À Paris, là aussi, le slogan est clair, vert clair, teinté de jaune. 25 000 personnes, selon les organisateurs, dans une ambiance festive et une même inquiétude générale.
Chantal Jouanneau, ces gilets jaunes, gilets verts qui s'étaient rassemblés à ce moment-là, le 8 décembre notamment, c'était à l'occasion de la marche pour le climat. Ils ne croient plus beaucoup aux solutions d'en haut, c'est ce qui ressort quand même de ce débat national. Donc ça veut dire que les solutions qu'ils proposent, elles sont plutôt campées où ? Dans les territoires, c'est plus de territorialisation des solutions, plus de capacité de co-construction, c'est ça ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'initiative des maires ruraux, des fameux cahiers de doléances. Et la grande vertu du grand débat a été de montrer qu'on ne peut pas, en France en tout cas, faire de politique sans les territoires. Et le rôle des maires est absolument crucial. Et on voit, nous, dans les initiatives les plus prometteuses, elles sont locales. Et on voit des maires extrêmement engagés et à des années-lumière de l'image qu'on voudrait leur donner parfois de personnes conservatrices, pas préoccupées par l'environnement. On est très très loin de ça. Et ce que nous disaient aussi les personnes, en fait, c'est la taxe carbone, pourquoi pas, mais on voudrait voir où elle va. Parce que là, elle va dans un puits sans fond qui s'appelle le budget et le déficit budgétaire plus exactement. Si la taxe carbone revient au territoire et que les élus locaux rendent des comptes et peuvent montrer concrètement ce qu'ils peuvent faire de cette taxe carbone, qu'ils peuvent effectivement sans doute l'atténuer, parce que moi je viens d'un village où il y a 200 habitants dans mon village, il est loin de la ville, vous pouvez pas vivre sans véhicule. Il n'y a pas une boulangerie, il n'y a pas un commerce, il n'y a rien. Donc évidemment vous avez besoin d'un véhicule. Et évidemment quand vous faites 30, 40, 50 km par jour, on peut le faire en véhicule électrique, mais c'est plus compliqué. Donc sur ces territoires, la dépendance à la voiture, elle est immédiate. Et ce sont des territoires qui ont besoin beaucoup plus que d'autres d'être accompagnés par des investissements. Et ça, ce sont les élus locaux qui peuvent le faire. Pas avec des grands programmes centralisés. Le message de ces manifestations aussi, ça a été de dire, faites la politique en partant des territoires, en partant des initiatives des territoires. Et la transition écologique, elle ne pourra pas être centralisée. La transition écologique, ce ne sera pas que les initiatives d'EDF ou des grands groupes. Ou des Non, elle doit être décentralisée. Et ça, j'y croyais pas avant, quand j'étais secrétaire d'État à l'écologie. Pour moi, tout était centralisé. La bonne décision, elle venait, forcément d'en haut. Mais vraiment, hein, je me souviens avoir fait des débats contre Yannick Jadot sur ce sujet, où il prônait la décentralisation et je lui disais « Non, t'as tort ». Bon, après, j'ai fait un parcours et je suis allée aussi en région.
Et voir des municipalités et comme des Grande Sainte, Damien Carême, comme d'autres.
Exactement, à Grenoble, ils font plein de choses. On a des communes aussi qui ont des programmes. La commune de Saillant qui a un programme d'association de la population à ses décisions. Mais on a même 20% de la population qui participe à des réunions pour co-décider ce qu'ils vont faire. C'est génial.
Vous parlez de votre village, c'est celui en Normandie. Vous avez fait vos premiers pas dans l'Eure, à Vernon ?
À côté de Vernon, en fait.
À côté de Vernon.
C'est très exactement entre Vernon et Passy. C'est deux villes qui ne diront rien à personne, mais c'est à côté d'une ville beaucoup plus connue, qui est Giverny.
On vous imagine, hein, dans cette campagne normande, une école à classe unique. Est-ce que vous avez le sentiment que votre engagement sur ce terrain de l'environnement, venu aussi au hasard de votre parcours politique, était peut-être déjà ancré en vous, de par votre parcours personnel ou familial ?
Ce qui était ancré en moi, c'est la relation à la terre. On est issu d'une famille qui a une vraie relation à la terre. Posséder de la terre, même si c'est un champ vide, c'est quelque chose qui est valorisé dans la famille. Par contre, je le dis très souvent, je ne suis pas née écologiste. Je ne suis pas née dans une famille où cette ambition était particulièrement portée. Je suis née dans une famille qui, comme dans toutes les campagnes, évite de gaspiller. Mais je vole cette phrase à Nicolas Hulot, on ne naît pas écologiste, on le devient.
Alors, il y a eu donc ce débat national, il y a cette aspiration de la population à plus de participation, hein, à cette démocratie participative. Je vous propose d'écouter cet autre reportage qui, lui, a été diffusé sur France 3 le 26 avril dernier, en lien bien sûr avec l'annonce faite par Emmanuel Macron de la constitution d'une assemblée de 150 citoyens tirés au sort.
Plus de démocratie participative, parmi les citoyens, les avis sont plutôt favorables.
Dans le principe, ça peut être une bonne idée, parce que c'est une sélection aléatoire, du coup il y aurait un peu des avis qui viennent de n'importe où. et on n'aurait pas juste un avis qui viendrait d'une certaine élite.
C'est plutôt bienvenu, ça montre qu'il a écouté aussi les revendications.
J'ai un avis de citoyen. Est-ce que je suis compétent pour me prononcer et faire la loi ? Franchement, j'ai mes limites.
Hier soir, Emmanuel Macron a proposé de tirer au sort 150 citoyens dès le mois de juin pour réfléchir à la transition écologique.
Nous commencerons à innover avec ce nouveau travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective de manière différente.
Des membres représentatifs de la population tirés au sort selon des critères d'âge, de sexe ou encore de catégorie socio-professionnelle. Conclusion attendue en décembre 2019.
C'est une bonne idée parce qu'on a une photographie de la France en miniature représentée sur 150 citoyens avec une diversité des urbains, des ruraux, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Si on a une assemblée qui n'est pas tirée au sort de la bonne manière, qui n'est pas maître de son agenda, là on risque de transformer ça en une opération de communication.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Chantal Joanneau, opération de communication, crainte de certains citoyens, volonté de d'autres d'en être. Mmh. C'est compliqué. Alors, première question peut-être, et puis on parlera ensuite de la CNDP. Hein. C'est quoi une bonne assemblée représentative et constructive ?
Déjà, les assemblées de citoyens tirées au sort, c'est une méthode très classique dans le domaine de la participation qu'on peut faire à différentes échelles. Et quand on avait fait la programmation pluriannuelle de l'énergie, on avait tiré au sort 400 citoyens. Pour les inviter justement à débattre de ce sujet de manière en leur donnant toute l'information nécessaire pour qu'ils puissent débattre. Donc on sait faire, ça fonctionne. Pour que ce soit entre guillemets honnête, il faut bien évidemment que le tirage au sort soit fait par une instance tierce, que les critères de sélection qui ont été évoqués soient strictement évidemment respectés, que ensuite on ne recrute pas simplement des personnes sur des listes électorales parce que ça en exclut beaucoup, mais qu'on diversifie les listes sur lesquelles on les tire, et surtout c'est comment on travaille qui compte le plus. Et ça, c'est à l'Assemblée des citoyens de co-construire sa méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'on en attend ? Si c'est pour refaire un énième débat sur les grands principes de la transition écologique, merci, c'est fait, on a donné, on a eu beaucoup de débats et c'est pas la peine d'en refaire un autre. Si c'est pour co-construire des solutions et s'engager, le problème c'est quel engagement le gouvernement prend demain à reprendre ou pas les propositions qui sont faites. S'il s'engage à dire tout ce qui sera co-élaboré et consensuel et voté et approuvé par cette assemblée, je le reprends. Là, votre assemblée, elle est effectivement, elle va bien travailler, elle va être vraiment très engagée. Et contrairement à ce que disait un citoyen, tous les citoyens sont parfaitement compétents. Et deuxième élément, quelle légitimité ? C'est pas une légitimité démocratique, c'est pas la représentativité telle qu'on l'attend dans une élection démocratique. Et encore, on pourrait discuter toutes les deux très longtemps pour savoir si nos assemblées sont réellement représentatives. C'est un autre débat. C'est la participation, c'est la construction, c'est un choix qui a été fait. Et en tant que c'est parce qu'on est citoyen ordinaire qu'on est parfaitement légitime à participer à cet exercice.
Est-ce que vous avez été déçu quand justement la CNDP a été dépossédée du débat national ? Bon, on rappelle, puisque c'était affaire publique, que la CNDP aurait dû s'occuper du débat public et que finalement, il y a eu la question aussi de votre salaire qui est arrivée sur le devant de la scène et que du coup, tout a été effectivement retiré. Comment vous l'avez vécu ?
On n'avait pas le choix. On a participé à la constitution en fait des différents outils qui ont été repris, à l'exception du système des questionnaires sur lequel nous on est vraiment très opposés.
Oui, c'est-à-dire que les questionnaires, c'était un questionnaire sur 4 thèmes, alors que vous auriez préféré un choix libre de sujet.
Absolument, parce que le questionnaire, en fait, la manière dont vous posez les questions oriente forcément les réponses, et en réalité, ça n'éclaire personne, ce genre d'outil. D'ailleurs, le résultat, c'est qu'ils n'ont rien fait des questionnaires. Et il n'en est rien ressorti. La vraie question qui s'est posée était celle du respect de nos principes, et notamment de notre indépendance. La Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante garante d'un droit. Elle n'est sous la coupe de personne. Elle n'est pas, c'est pas une agence d'organisation de débat public pour le compte du gouvernement. Or, les conditions ensuite de déroulement du débat et surtout le qui rédigeait les conclusions du débat étaient telles qu'on ne pouvait pas, nous, accepter de poursuivre cette mission. Alors, en plus, Il y a eu cette question de la rémunération, et moi je sais très bien, quand on n'est pas reconnu comme légitime pour conduire un débat, il faut forcément s'en déporter. On a des cas assez nombreux hein, de garants pour lesquels, s'ils sont suspectés d'avoir pris une position sur le sujet qu'ils doivent garantir, eh bien ils sont forcément démis de leur mission de garant. Que ce soit vrai ou pas, ça compte pas ça. C'est vraiment ce que pense le public de la position du garant, de son indépendance, de sa neutralité, de sa légitimité à conduire le débat. Mais le vrai sujet pour la Commission nationale du débat public, c'était que une opération à caractère politique, nous ne sommes pas faits pour la mener à bien. C'est pas notre rôle, on n'est pas légitime pour le faire, on se serait totalement discrédité. À l'inverse, il n'y avait aucun mal à ce que le gouvernement conduise cette opération. Aucun mal. C'est un choix politique. Il n'y a aucun mal à ce que le président de la République aille lui-même, au-devant des Français, conduire cette opération. Mais ça a été un message que, manifestement, ils n'ont pas bien compris.
Donc rappelons que la CNDP a été créée en 1995, donc même plus de 20 ans, 24 ans, qu'elle est libre et indépendante. Et donc, finalement, comment elle travaille? Qui peut faire appel à la CNDP? Comment ça marche?
Nous, on est très liés à l'environnement. C'est-à-dire que notre rôle, c'est, quand il y a des grands projets qui ont un impact sur l'environnement, d'organiser déjà le droit à l'information des citoyens, qu'ils aient connaissance de ces projets, au tout début du projet. Au moment où vraiment on envisage le projet, il n'est pas complètement ficelé, loin de là, toutes les options sont ouvertes. Donc déjà, on informe les citoyens, et on le fait de la manière la plus transparente et objective possible. Et ensuite, on permet à toutes et à tous de s'exprimer sur le projet, mais on va même plus loin. On va chercher, on essaye d'aller chercher les personnes qui d'habitude ne s'expriment pas. Avec l'idée, en fait, de faire le tour des arguments que suscite un projet et d'éclairer la décision. Ensuite, le décideur, quel qu'il soit, il poursuit ou pas son projet, mais il le fait en connaissance de cause. Et donc, nous sommes vraiment... Le recours à la CNDP aujourd'hui est très encadré. Il est fait par la loi et le code de l'environnement en particulier. Ce sont tous les grands maîtres d'ouvrage, que ce soit des collectivités, des grandes entreprises, qui ont des grands projets. Elles doivent nous saisir. Alors, projet, c'est extrêmement varié, puisque aujourd'hui, on doit avoir plus de 110 procédures en cours. On organise la concertation, par exemple, autour de l'agrandissement de l'aéroport de Roissy. On a des projets, un grand projet de parc solaire dans le Larzac, un projet de parc éolien au Blayé. On a le réaménagement ferroviaire à Lyon.
Donc vous êtes saisie, vous
saisie
travaillez
obligatoirement. Alors que fait-on? À partir du moment où on est saisie, on a deux possibilités. Soit on organise nous-mêmes un débat public et on en décide toutes les modalités. Soit on dit au maître d'ouvrage, vous organisez votre concertation, mais on nomme un garant, une personne qui va vérifier que vous respectez bien le droit à l'information, que vous respectez bien le droit à la participation, que vous allez vraiment tout faire pour aller chercher toutes les paroles qui souhaitent s'exprimer autour de votre dossier. Et donc, ces garants qui sont nommés et rémunérés par la CNDP, alors il y en a 110 à peu près, qui sont aujourd'hui en poste sur différents dossiers de taille extrêmement variable et qui suivent l'ensemble du dispositif, qui font un bilan pour dire si le maître d'ouvrage a clairement joué le jeu. Alors, on a un droit, nous, qui est vraiment un droit d'interpellation, un droit très médiatique, on peut pas s'auto-saisir des sujets. Hein. Et in fine, le maître d'ouvrage doit répondre aux observations que nous faisons. Par contre, on ne se prononce jamais pour dire c'est un bon ou un mauvais projet. On reste totalement neutre pour une raison simple, c'est que si nous n'étions pas neutres, les partisans d'un projet ne viendraient pas s'exprimer ou les opposants ne viendraient pas s'exprimer puisqu'ils n'auraient pas confiance dans notre capacité à reprendre leurs paroles.
Concrètement, quand vous dites que les individus ont le droit d'être informés et de participer aux décisions, donc c'est un droit fondamental hein, d'être informé,
oui.
Ça veut dire que aujourd'hui ils ont accès, comme ils le veulent, aux décisions, aux rapports de la CNDP.
Ah,
c'est
oui.
Cette façon aussi d'être informé.
C'est 100%, nous c'est 100% transparent public. On va tout mettre d'ailleurs cette année ou au plus tard l'année prochaine, tout sera en open data, mais en tout cas toutes nos décisions, tous nos rapports, tous les dossiers, tout est public accessible sur notre site. Il y a un autre principe auquel que j'ai pas cité et auquel je tiens tout particulièrement, qui s'appelle le principe d'équivalence. Et celui-ci est probablement le plus difficile à faire entendre dans le monde administratif et politique. Il signifie tout simplement que quelle que soit votre position dans la société, votre parole a exactement la même valeur. C'est-à-dire que dans un débat public, s'il y a une personne seule qui nous donne un argument, même si elle est toute seule, ça aura la même valeur que si vous êtes député, que si vous êtes le grand expert de la question du nucléaire ou autre chose. Et ce principe d'équivalence est fondamental dans la participation parce que il est parfois c'est une seule parole qui peut être beaucoup plus importante que 10 000 paroles répétées.
Partons du côté de votre univers musical. Aujourd'hui, vous nous proposez Me and the Devil de Soap and Skin. Il y a une raison en particulier ?
Oui, le texte. Parce que Me and the Devil, ça renvoie à nos contradictions permanentes et nos tensions permanentes. On sait ce qu'il faut faire, on sait où est le bon, où est le bien, et on a toujours cette petite tension. Et en plus, c'est quand même une très belle composition. Il y a eu plein d'interprétations différentes, mais celle-ci, je l'aime beaucoup.
The Devil de Soap and Skin, le choix de notre invité aujourd'hui sur France Culture dans l'émission De Cause à Effet. Et notre invité, c'est Chantal Joanneau, présidente de la CNDP, la Commission Nationale du Débat Public, ancienne secrétaire d'État à l'écologie auprès de Jean-Louis Borloo et ancienne présidente aussi de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Une femme engagée sur le terrain de l'environnement, consciente des enjeux pour le vivant et pour les générations futures et partisane d'une démocratie plus participative. Chantal Joanneau qui porte aussi certains défenseurs de l'environnement comme Jet Goodall.
What I say to them is the same as I say to adults.
Je dis aux enfants la même chose que je dis aux adultes, à savoir que chacun peut accomplir les gestes qui seront efficaces, que toute vie compte, qu'on a tous un rôle à jouer même si on n'en a pas encore conscience. Certains pensent qu'un geste isolé est inutile, mais si nous sommes des centaines, des milliers, des millions à agir, à surveiller ce que nous achetons, ce que nous mangeons, ce que nous portons, comment on impacte la nature, ou les animaux, ou les autres, on verra naître un nouveau monde. Or nature, then you start seeing this is creating a different kind of world. It's not too late if more of us take action now. Il n'est pas trop tard si nous agissons tous dès maintenant. C'est pour cela que je voyage 300 jours par an à travers le monde, bien que j'ai 84 ans. Et je veux consacrer tout ce qui me reste à vivre à aider chacun à prendre conscience du rôle qu'il a à jouer. Si nous y parvenons, il n'est pas trop tard.
Les jeunes aujourd'hui doivent vivre leurs rêves aussi.
Je dis aux jeunes de chercher à vivre leurs rêves, tout comme ma mère me l'a dit. Ma mère a eu une importance fondamentale dans ma vie, surtout quand j'étais enfant, et que tout le monde se moquait de mes rêves, sauf elle. Et puis quand je suis partie en Afrique, il fallait quelqu'un pour m'accompagner sans concurrencer mon travail. Ce fut ma mère qui m'a soutenue.
C'était Jane Goodall dans une interview diffusée sur France Info le 20 janvier 2018 à l'occasion de la sortie du film Jane qui raconte sa vie et son parcours et qui a été diffusé sur National Geographic. Jane Goodall, qui a 85 ans, arpente le monde et parle aux jeunes. L'une de vos icônes?
Oui, l'une de mes icônes. On s'est rencontrés dans les forêts gabonaises, ça devait être en 2007 ou 2008. Et c'est une femme alignée, donc forte, avec un discours effectivement très bon. Elle a écrit un livre formidable qu'il faut que j'invite tout le monde à lire, qui s'appelle « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et je trouve ça juste génial comme livre, qui interpelle très directement chacun dans ce que nous faisons. Donc c'est vraiment une grande dame. Je me souviens qu'elle avait rencontré, c'est une anecdote, mais elle mérite quand même d'être dite, elle avait rencontré Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, qu'on s'était retrouvé au Gabon. Et elle lui avait mis la main sur la tête, elle lui avait fait le cri du singe pour lui dire bonjour. Il n'avait pas osé bouger. Et c'était un moment mais magique, où vous voyez cette petite dame, toute fragile et toute frêle, et qui juste s'impose au président de la République, quoi.
Et Jane Goodall, donc, qui parle aux jeunes, et ces jeunes, effectivement, qu'on entend plus à travers les grèves scolaires, les grèves étudiantes. Ils disent beaucoup de cette inquiétude pour l'avenir, leur avenir. À quoi bon étudier si l'aventure humaine va à sa perte, c'est leur message. Est-ce que vos propres enfants, Chantal Joanneau, se mobilisent? Vous en avez trois, je crois.
J'en ai trois. Il y en a deux qui sont très jeunes encore, ils ont 12 ans. Une qui est plus grande qui a 15 ans. Alors, celle de 15 ans est très, très mobilisée. D'ailleurs, elle ne vit plus en région parisienne. Elle a fait le choix de partir en internat à la campagne. Elle a fait le choix de vivre ailleurs. Et celle qui a 12 ans, elle, dans sa consommation, ça y est, maintenant, elle commence déjà à avoir des choix assez tranchés aussi. Bon, le garçon, comme tous les garçons, c'est plus tardif.
Et vous avez un message à passer à cette jeune génération?
Oui, je pense qu'il y a un double message. C'est une génération qui lutte. On voit, il s'exprime. Et il s'exprime d'ailleurs en plus avec beaucoup en général de joie. Nous, nous, on est hébergés par le ministère de l'écologie, donc on n'est pas loin de François de Rugy, donc on les voit régulièrement.
Ils viennent s'exprimer. Le vendredi après-midi.
Voilà. Et ils le font de manière assez joyeuse. Et je pense qu'il est important qu'ils ne reproduisent pas l'erreur de leurs aînés pour qui la lutte était synonyme de combat, était synonyme d'une forme effectivement d'agressivité. Eux, ils doivent incarner pleinement cette nouvelle société qui est quand même réconciliée avec elle-même. Et vraiment, ils doivent l'incarner, ils doivent le vivre, ils doivent le faire, ils doivent le pratiquer. Et le pratiquer, ça fait souvent beaucoup de plaisir, sauf souvent quand on change une petite chose dans son quotidien. Il y avait un témoignage d'une famille qui avait renoncer chez eux au plastique. Donc, toutes les décisions qu'ils prenaient étaient de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique chez eux. Une autre famille où vous allez essayer de renoncer définitivement à la viande ou à autre chose, vous verrez, si vous essayez, ça fait beaucoup de bien.
En tout cas, qu'ils imposent leur nouveau modèle de société.
Mais positivement, vraiment positivement, parce que il y en a marre des luttes, entre guillemets, politiques qui se déterminent que dans la lutte. Non, c'est dans l'incarnation maintenant qu'il faut se déterminer.
Alors l'incarnation, eh bien justement, on va faire entrer notre invité surprise pour la seconde partie de l'émission, un autre de ces alerteurs qui donne de la voix dès qu'il le peut, mais justement, découvrons tout d'abord sa voix.
Il n'y a aucun député dans l'océan, il n'y a pas de gens qui votent pour l'océan, donc on l'a oublié. Vous vous rendez compte, on a passé 20 COP, 20, sans parler d'océan. L'océan est le principal régulateur du climat, mais c'est l'océan vivant qui est ce régulateur du climat. Il ne pourra pas jouer ce rôle s'il n'est pas vivant. La base de l'océan, c'est quand même toute la vie micro-organismique. 98% de la masse de tout ce qui est vivant dans l'océan, ce sont des virus, des bactéries et des micro-algues. Et c'est toute la naissance de la vie, en fait. La grosse différence entre l'océan et des écosystèmes terrestres, c'est qu'on ne peut pas détruire l'océan. Je peux détruire une mare, je l'assèche complètement, je peux arracher une forêt. Ce qu'on détruit sur l'océan, c'est le littoral. Et cette mince frange qui est fondamentale du passage de la vie de la terre à la mer et de la mer à la terre est en cours de destruction systématique. Allez en Méditerranée, allez voir ce qu'on a fait des côtes en Espagne, en Croatie, en France aussi, bien évidemment, sur la Côte d'Azur. Donc, on détruit le littoral. Ensuite, on le pollue, cet océan. Et c'est dramatique.
Et cet invité entre dans le studio. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour Gilou.
Allez Gilles Boeuf, prenez place. Bon, on a compris que vous connaissez. Vos trajectoires ont dû se croiser à multiples reprises. Gilles Boeuf, je précise pour nos auditeurs que vous êtes océanographe, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, anciennement président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, professeur invité au Collège de France et conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal. Et donc, on l'entendait dans cet extrait, hein, spécialiste de l'océan et de la biodiversité. Vous êtes souvent en guerre d'ailleurs contre la politique de l'autruche, hein, des hommes dont vous dénoncez l'imprévoyance, l'arrogance, la cupidité.
Absolument. On a vécu la semaine de la IPBS, donc un peu l'équivalent du GIEC climat pour le vivant. J'aime bien dire vivant plutôt que biodiversité, ça parle mieux aux gens. On assiste à un effondrement du vivant, et je disais à des gens récemment, on a tué sur 40 ans entre 52 et 97% des girafes. Pourquoi ? Et c'est pas des femmes qui font ça. Je reviens à mon combat justement pour la défense des femmes dans l'implication de ces questions-là. On vit exactement ces défauts dramatiques. On est dans un système aujourd'hui où le court-termisme est effroyable. Je prends souvent l'exemple du chlordécone sur la Martinique et la Guadeloupe où pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de la banane, on a empoisonné des terres et un morceau d'océan pour des siècles. C'est pas possible de continuer. On a même honte d'être un humain à la fin du système. Je dis souvent, l'humain est profondément fabère, on a des beaux micros, là, on est bien installé, mais on n'est pas sapiens du tout, en fait. Donc c'est vrai, là, que ces défauts-là sont absolument, bien sûr, à juguler. Puis je crois que le bilan de tout ça, en écoutant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette économie actuelle qui est stupide et suicidaire et qui amène à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Dire entre, on peut faire autre chose. Donc, jusqu'à présent encore, bon, je restais sur des positions. Je pense qu'il faut être encore beaucoup plus ferme aujourd'hui. Il faut arrêter la langue de bois qu'on entend partout. We have to change. Hein. On me le dit partout, dans toutes les langues du monde. Mais que fait-on pour changer? Et quand j'écoute cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, me fait pleurer. Alors, les mâles adultes l'attaquent en disant, mais c'est quoi cette gamine? Elle y connaît rien, elle est contre nous. Je vous assure que je l'ai rencontrée. C'est pas sa maman qui a écrit ces lignes-là. C'est elle. Et quand je vois cette petite fille qui se met à pleurer, simplement en annonçant l'effondrement des grenouilles. C'est dans ses tripes, et nous, c'est pas encore dans nos tripes. Et c'est là que l'écologie doit prendre sa place, en fait. Que ça sorte, effectivement, du cerveau, même du cœur. Hein. Si ça passe pas dans les tripes, nous sommes faits de diversité biologique. Je dis souvent, ici, sur cette antenne, un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Un bébé humain, c'est trois quarts d'eau. Comment peut-on continuer à considérer ce vivant et le traiter comme on fait?
Chantal Joanneau, Greta Thunberg, qui effectivement a séduit beaucoup de personnes et puis subit des attaques. Elle-même, finalement, à 15 ans, à peine 16 ans, elle est dans ce monde, dans cette tourmente à la fois du monde politique, des lobbies, et elle subit une pression inimaginable, d'où les pleurs aussi.
Mais quand on voit cette jeune fille, et on évoquait les jeunes qui manifestaient pour le climat, je pense quand même que... on a gagné une partie, déjà. Ça y est, le cœur commence à parler, les tripes aussi, et la raison aussi. Donc, on a quand même gagné quelque chose. Après, qu'elle soit attaquée, prouve sans doute qu'elle est dans le juste. Si elle n'était pas dans le juste, elle ne serait pas attaquée.
Alors, Gilles Boeuf disait à l'instant, finalement, le capitalisme, les marchés à court terme, le libéralisme, c'est ce que vous disiez avec d'autres mots.
La cupidité, j'aime beaucoup ce mot.
Sont écocidaires.
Je pense que c'est le mot juste, la cupidité.
Tout cela, c'est écocidaire. Ça veut dire que c'est un nouvel idéal de développement aussi qu'il faut concevoir. Aujourd'hui, on peut dire que les citoyens savent ce qui se passe. Le changement climatique est une réalité, l'effondrement du vivant aussi. Il y a la prise de conscience, mais l'action n'est pas encore enclenchée à hauteur.
D'ailleurs, ce que tu citais à la suite du rapport IPBES, il y a eu le G7 environnement, c'est significatif. Voilà, il y a eu le G7 environnement avec une charte et des paroles. Encore moins ambitieux, je pense, que ce qui s'était dit en 2010.
Nicolas Hulot avait fait un plan de biodiversité. Je viens de passer quelques jours avec lui à la COP des baleines, c'est-à-dire en Espagne, à Valence. Nous avions invité des élèves de seconde, des lycées français à l'étranger, des rives de la Méditerranée. Des jeunes, comme on évoque ici, 15-16 ans. Génial. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on leur laisse comme espoir? Le jour où on me disait, vous comprenez, nous on n'a pas réussi, eux ils vont réussir. Non, on ne peut pas attendre une génération. Il faut que l'on mette plus que le pied à l'étrier. Alors, je suis entièrement d'accord avec Chantal, il y a des prises de position. Moi, ce qui me fait jubiler quelque part, c'est que, bon, je connais aussi beaucoup de patrons de très grandes boîtes qui recrutent. Eh bien, les majeurs, maintenant, commencent à dire, mais votre RSE, comment elle fonctionne? Votre éthique environnementale? Et cela, on les aura pas en greenwashing. C'est pas en trichant qu'on va les avoir. Et ils me disent, les très bons, ils reviennent pas. Et ça, c'est très fort, parce qu'il faut que... Alors, j'ai horreur du terme élite, parce qu'en plus, on l'a galvaudé, maltraité avec les mouvements qu'on a vécu là récemment. C'est pas une élite, c'est des gens, effectivement, qui se mettent à gérer des choses pour différentes raisons. Pas qu'intellectuels, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Mais des gens se préoccupent de ces questions-là. Et il faut que ça passe beaucoup plus fort. Les gens ont peur du changement climatique, ça leur fait pas peur, l'effondrement des grenouilles et du vivant. Comment est-ce qu'on l'explique en permanence? Comment on explique à un patron d'industrie, grosse entreprise ou petite, qui ne pourra pas continuer à faire son business si on continue comme ça? Alors, je voudrais pas que tout tombe dans l'utilitarisme. Je dis souvent aux gens, regardez, et puis ce matin, ce que vous avez fait, nous écouter, par exemple, ça sert à rien. Mais c'est génial, ça nous apporte du bonheur. C'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Et c'est pas le capitalisme non encadré ou les lois du marché qui vont gérer ces questions-là.
Alors, si ce n'est que les citoyens, Chantal Joanneau, ont la main quand même pour faire pression. Elles peuvent exiger de leur banque, de leur assurance, changer hein, si les banques et assurances ne sont pas vertueuses. C'est un droit aujourd'hui.
Ce que disait Gilles, alors on va les appeler comment? Major? Tu as utilisé le terme de major. Au-delà des majors qui maintenant effectivement demandent des comptes et qui vont pas s'engager dans les entreprises qui n'ont pas une certaine éthique, vous avez en plus en plus d'assurances. Alors ça, c'est utilitariste. De fonds d'investissement, maintenant, qui s'engagent sur ces sujets, de plus en plus. Alors, sans doute avec une vision utilitariste, ça c'est certain, le côté cœur est peut-être un peu moins fort, hein. Mais ça bouge, et en fait, de ce côté-là, ça bouge beaucoup plus vite, je trouve, que le côté politique. Moi, j'avais écrit un livre que personne n'a lu, mais c'est voilà, c'est comme ça. Oh bah. Ça m'a fait plaisir de l'écrire, c'est déjà ça. Ça s'appelait la société des possibles. D'ailleurs, en fait, c'était presque gratuit parce que le but c'était pas de gagner de l'argent.
Et Gilles Boeuf l'avait lu apparemment.
Oui. Mais c'est un homme bien. Et donc, j'avais prévu des changements à l'horizon 2037. Et ben, il y a plein de choses qui sont déjà dépassées. Voilà, il y a des mauvaises nouvelles d'un côté, il y a des très bonnes nouvelles de l'autre.
Boycotter les multinationales, trouver une forme de résistance civile aussi, c'est ce par quoi il faut passer.
Mais bien sûr, c'est même pas un boycott, c'est qu'on arrête d'acheter des choses qui nous font du mal. Je disais l'autre jour, regardez, quand j'avais 20 ans, moi les pauvres étaient maigres. Ils sont gros les pauvres aujourd'hui. Il y a un petit problème, que mangent-ils? Cette invention du mythe low cost pour l'alimentation, c'est un crime contre le système. Il faut payer un peu plus ce qu'on mange. Manger très bien, le payer un peu plus cher, et le monde agricole, il trouvera son compte, ils arrêteront leurs pesticides. On est dans un système aujourd'hui où on a instrumenté un développement irresponsable, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, dans le court-termisme, et puis aussi dans les profits de quelques-uns. Tout à l'heure, je disais, en fait, comment imaginer une économie qui fait du profit sur la destruction du capital qu'il possède? On n'a pas d'autre planète, on me dit toujours, on ira ailleurs. Diantre, on va aller sur Mars. Ils vont s'étriper au bout de 6 mois dans la boîte de conserve. La première planète habitable, elle a 700 années de voyage. On se fout du monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Moi, vous savez, je suis un fils spirituel d'Edgar Morin et j'admire tellement. Et Edgar dit toujours, en fait, il faut réécologiser le système. Et puis, il dit, vous savez, si on gouverne comme on le fait à l'heure actuelle, en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne. Hein, qu'on regarde un petit peu ce qu'il passe. Puis, il dit souvent aussi, ça me touche encore plus fort, quand on revient à la barbarie, ce qui va se passer si on continue comme ça, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Et ah ça, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire.
Vous pensez aux migrants du climat?
Mais sans arrêt. Et on me dit toujours, il faut remettre les femmes à leur place. Pas du tout. Les maîtres, elles n'ont jamais été là. Moi, j'écoutais avec Chantal les femmes africaines durant la COP21. Mais elles m'ont ébloui. J'étais émerveillé d'amour et d'admiration. Elles ont dit des choses très fortes. Quand vous voyez ces gamines qui vont chercher de l'eau, l'eau est de plus en plus lointaine et de plus en plus souillée avec le changement climatique, la déforestation. Quand elles font ça, elles n'ont pas de salaire pour faire ça. Elles ne vont plus à l'école. On réglera la question de démographie quand ces filles seront normalement éduquées comme les garçons. Elles ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent et font des mauvaises rencontres en route. De qui on se moque? Là, on se prive de... Parce que 50% de femmes, ça fait plus que 50% de l'intelligence. Donc, de tout ça, c'est pas concevable. Mais quand je vois qu'on est dans un pays où les hommes trouvaient normal que les femmes ne votent pas il y a 70 ans, je m'interroge sur la condition du mâle d'Homo sapiens.
Donc ça sous-entend de changer notre conception de la société de demain, hein, Chantal Joanneau. Quelle croissance, quels emplois, quel modèle de production et de consommation, quelle solidarité, quelle valeur, on en est là.
Effectivement, c'est des questions qui sont posées sur la table depuis un petit bout de temps. On avait eu ce travail assez intéressant de Stiglitz et Amartya Sen, justement, sur la réforme des indicateurs de richesse. Mais aujourd'hui, je crois plus aux initiatives de la société que finalement aux initiatives des dirigeants. Et pas tant que j'ai pas confiance dans la capacité des dirigeants, mais ils sont complètement coincés dans des institutions et des systèmes qui souvent les amènent à prendre les décisions qu'ils prennent. Mais par contre, la société, elle, elle peut faire beaucoup de choix, et des choix majeurs. On voit d'ailleurs tous les systèmes de consommation de masse, de la grande distribution, qui sont en train de s'effondrer quand même. Mais ça change à une vitesse folle. À partir du moment où vous décidez non, parce que c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon tout court, je n'achète plus tel produit, j'arrête d'être dans l'hyperconsommation de viande et de protéines en général d'ailleurs. Ça, il y aurait beaucoup à dire. Là, vous faites évoluer les choses, de fait. Donc, les systèmes de valeurs, moi, je les vois déjà évoluer. On n'a pas attendu nos grands discours pour que ça évolue.
La question, c'est vont-ils assez vite par rapport à la vitesse d'accélération, de dégradation qu'on fait sur les écosystèmes. Je suis un scientifique, donc j'ai plein de copains scientifiques, évidemment. Mais maintenant, je me suis rapproché de gens qui ne sont pas scientifiques. C'est ça, la biodiversité, le monde politique, quelquefois. Mais des grands penseurs, j'admire énormément. Je pense à Thierry Marx, par exemple. Mm-hmm. Avec Thierry, 20-80. On ne fait plus un repas avec plus de 20% de protéines animales. On fait ça, on va bien améliorer la situation du climat. Avec des sportifs de très haut niveau. Les voileux, je suis très copain avec un tas de types qui ont fait le Vendée Globe, ils ont une réflexion sur le monde qui est extraordinaire en fait. Hein. Et je pense qu'ils nous aident. Kevin Mayer, notre recordman du monde du décathlon, quand il dit à des gamins du 9-3, vous savez les enfants, si demain je ne bois que de l'eau souillée et respire de l'air pollué, c'est fini mes records. Et croyez-moi, ça a largement autant d'impact qu'une leçon de Gilles Boeuf à la tête au carré sur France Inter.
Ou à deux causes à effet sur France Culture.
Oh, là, ça passe mieux.
Bon, en tout cas, est-ce que selon vous, la méthode choisie quand même par l'affaire du siècle, d'attaquer l'État en justice pour une action climatique, est aussi une solution, un autre levier en tout cas ?
C'est un des leviers, le levier de la justice est un levier extrêmement puissant, et la place de l'environnement aujourd'hui dans la justice est effectivement une place qui mérite d'être questionnée, parce qu'aujourd'hui l'environnement est un sous, c'est pas reconnu en tant que tel. Donc c'est un des leviers. Et pourquoi ce serait pas légitime de faire un procès sur ce terrain-là ? En quoi l'environnement ne serait pas un sujet légitime de droit de justice ? Non, mais c'est vrai quand on pose la question, mais attention, quand on va avoir des procès de masse, vous savez, on avait discuté d'une loi pour des possibilités d'action collective dans le domaine de l'environnement et de la santé. Ben, je peux vous dire que cette loi, c'est une des lois qui a connu le plus de résistance. Elle n'est pas passée d'ailleurs. Hein. Mais quand vous aurez des actions collectives dans le domaine de l'environnement et de la santé beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui, ça va radicalement faire bouger les choses.
Gilles Boeuf.
Juste un fait très précis, versé au dossier. Depuis 3 ans, je démarre les conférences à l'École nationale de la magistrature.
Très bien.
J'ai des gens qui sont passionnés par ce que je leur raconte. Ils disent, oh, vous n'avez pas assez d'heures, on pourrait en avoir plus. Et j'ai des gendarmes, j'ai des procureurs, j'ai des juges d'instruction. Et c'est génial, hein. Je vous assure qu'ils ne prennent pas ça à la légère. Parce que l'infraction environnementale, elle était à peine poursuivie pendant très longtemps. Ça vient, les compensations par exemple, Chantal le sait bien. On promet de compenser, mais on ne le fait pas.
Et d'abord, donc, il faut éviter.
On est bien d'accord. Et moi, vous aimez que pour un écologue, la compensation, c'est hérétique. Si je remplace une mare détruite avec des grenouilles rares à Lille, en mettant des moutons dans la plaine de l'Acro, vous avez du mal à convaincre un écologue. Et c'est tout ça. Donc je pense que ça va pas être très efficace au début au moins, mais toutes les armes qu'on peut utiliser, il faut les mettre dans notre camp.
Et vous disiez tout à l'heure, Gilles Boeuf, que bon, finalement, une espèce qui disparaît, on s'en rend plus compte. Mais est-ce que ça veut dire que l'humain aujourd'hui n'est plus du tout tourné vers la nature, ne regarde plus dans les yeux cette biodiversité, n'est plus au contact et donc du coup n'est pas conscient aussi de
d'abord,
cette
en premier lieu,
perte.
Il ne sait pas qu'il est dedans. On part sans arrêt, l'humain et puis la nature à côté. Ouais. C'est le plus gros crime. Et moi, dans mes conférences, Chantal le sait bien, je passe une bonne heure à dire, voilà, qui vous êtes que nous avons du chlorure de sodium dans notre sang ? C'est celle de l'océan. C'est quand même pas par hasard si tous les humains, quels qu'ils soient, ont 142 millimoles de sodium dans leur sang. On est fait aux 3/4 d'eau quand on était un bébé. On ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Et puis surtout, quand je raconte des histoires sur les relations entre les gènes, hein, on a un tiers de nos gènes en commun pour la partie godante avec les microalgues du plancton. 60% avec une banane. Alors qu'on arrête de nous croire sortis du système. 98 avec un chimpanzé pour la partie godante. Hein, 2/3 avec une mouche. Et c'est ça qu'il faut qu'on admette. Parce que, et je montre souvent une image qui est un peu mon image fétiche. Je montre un lit humain le matin quand on y a dormi qui contient entre 1 et 2 millions d'acariens. Voilà. Quand je dis aux gens, vous avez plus de relations intimes avec vos acariens de votre lit qu'avec votre copine ou votre copain, ça change la relation de l'humain au vivant. Et pourquoi c'est important ? Parce que si on admet ça, on comprendra que s'attaquer au vivant, c'est s'auto-attaquer. ce qui est un peu stupide pour une espèce qui s'est elle-même appelée sapiens.
Ouais. Et comme vous dites, finalement, sans biodiversité, l'homme meurt.
Ah, complètement.
Chantal Joanneau et Gilles Boeuf, allez, juste avant de clore cette heure d'émission qu'on aurait bien voulu poursuivre avec vous.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous réjouit le plus? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, peut-être, voilà, aujourd'hui?
Ce qui me réjouit le plus, c'est de retrouver Gilles Boeuf aujourd'hui. Au-delà de ça, ce qui me réjouit le plus, que je vous le disais tout à l'heure, c'est que dans le cadre des débats publics qu'on organise et des procédures de participation, c'est vraiment, on voit un nouveau, une nouvelle vision de société qui émerge, qui est très structurée, hein, parce que j'en ai marre d'entendre des discours selon lesquels, quand vous interrogez le public, c'est le café du commerce. C'est vraiment, mais c'est tout sauf ça. Il y a des visions de société très structurées et très imprégnées de la question, effectivement, développement durable, environnement, pas toujours avec la solution, mais très imprégnées. C'est un sujet qui est au cœur de la plupart des débats qu'on a organisés. C'était le cas sur la transition énergétique, c'était le cas sur la vision de l'Europe de demain. Donc, il y a une vision de société qui est en train de se structurer. C'est une très bonne nouvelle.
Bon, ce qui vous inquiète, ou on peut finir sur les réjouissances aussi.
Ce qui m'inquiète, c'est que de l'autre côté, ce que disait Gilles, c'est de l'autre côté, le système, c'est le système s'emballe. Et donc, le choix de ma chanson Me and the Devil, c'est qu'il y a un bon côté et il y a le côté sombre. Et le système s'emballe du côté sombre.
Gilles Boeuf.
Oui, et surtout dans la façon d'expliquer, ce que je fais souvent. Je crois que d'abord, mettre l'humour de son côté pour raconter des choses très graves en amenant celui qui m'écoute à s'auto-ridiculiser lui-même de son comportement. Ça marche très bien. Et deuxièmement, dire aux gens que c'est vrai que la situation est préoccupante. Moi, je suis professeur des universités, hein. Et je reviens à mon ami Edgar Morin quand il dit, en fait, le probable est très préoccupant. J'aime pas le mot catastrophique. Mais dans l'histoire de l'humanité, souvent, le probable ne s'est pas produit. C'est ce qu'on fait avec vous cet après-midi. Et je vous remercie toutes les deux parce que on se bat pour que ce probable qu'on nous promet ne se produise pas. Et ça, on le réussira que en changeant. Et pour l'instant, on change pas.
Alors, un geste pour changer au quotidien. Un petit geste que vous avez envie de préconiser.
Oui, alors moi, au quotidien, j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson, et voilà, c'est ce qu'on mange. Puis alors, en termes de santé, c'est super.
Ah oui. On mange pas des avocats, du chili tous les jours, donc c'est vrai que faut regarder la distance de... Puis vous savez, je dis aux gens, mais essayez de travailler sur la qualité. On me dit, oui, mais tu comprends, elle est trop chère par rapport aux gens qui sont pauvres. Une carotte bio avait 3 centimes de plus qu'une carotte pas bio, donc c'est un problème de choix. Et surtout au niveau des enfants, une véritable question d'éducation, tout petit, c'est plus facile à l'école maternelle qu'à l'école nationale d'administration. Hein. Moi, je m'étais battu à l'époque pour mettre un cours d'écologie, et ça n'a pas fonctionné. Et là, aujourd'hui, ça va être un autre coup de rage, on est en train de nous détruire les programmes de sciences de la vie et de la terre dans les lycées français. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, l'élite, là, c'est un mot que je vais dire de façon plus péjorative, c'est mathématiques, physique ou lettres, mais on se fout du monde. Parce que ce qu'il faut dans l'enseignement, c'est pas que la connaissance, c'est développer l'esprit critique. Parce que l'énorme problème de nos jeunes aujourd'hui par rapport à notre génération, on n'avait pas de fake news, nous. Hein. Vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel média, on vous bombarde de choses stupides, débiles, sans aucun intérêt. Comment le jeune fait-il le choix dans tout ça? Il faut qu'il soit aidé par les parents et par le système éducatif. Donc là, il y a vraiment un très grand rôle pour qu'on retrouve cet esprit critique et que finalement, il soit capable de faire la part des choses. Et c'est comme ça qu'on pourra lutter contre ces, bon, on dit multinationales, mais ces gens qui font du profit sans vergogne, totalement irresponsables. Ils ont aussi des enfants et des petits-enfants, hein. On me dit, moi, je vivrai dans mon abri en antiatomique, dans mon jardin. Oui, puis on bouffera avec des boîtes de conserve et puis on se suicidera au bout de 3 mois. C'est pas sérieux. Et c'est là qu'il faut avoir l'adhésion de tout le monde. C'est pas que vous êtes important, parce que moi, quand je fais des confs, tous les gens sont convaincus parce que je veux dire avant qu'ils viennent m'écouter, ils m'aiment bien. Mais que moi, je touche les gens qui vont jamais ouvrir les pages environnementales d'un grand journal, qui n'écoutent pas nos émissions de radio, qui vont jamais voir un musée, qui vont pas écouter de conférences. Il y a une vraie question là de comment on fait. Il faut que ça passe l'écologie du cerveau aux tripes.
Et donc par l'école.
Et les parents et tout le monde.
Merci à tous les deux. Chantal Joanneau, Sans tabou, c'est le titre de votre livre paru aux éditions La Martinière. Gilles Boeuf, on peut citer La biodiversité, de l'océan à la cité. Un livre édité chez Fayard. Et comme toujours, bien sûr, ces informations, les liens vers la CNDP ou bien vers l'Agence française pour la biodiversité, les compléments, vous les retrouvez sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique toujours de cause à effet. Réécoute et téléchargement en plus selon vos envies. Et quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour une nouvelle saison de notre magazine de l'environnement de cause à effet le week-end prochain sur France Culture dans la grille de rentrée. D'ici là, très belle matinée à tous et sans plus attendre, place à l'équipe de la rédaction de France Culture. Tout de suite, le journal.